parle autant, en répétant toujours la même chose, en tellement d'endroits différents, en répétant toujours la même chose.
J'étais convertie dans une apparition et j'aime beaucoup la Sainte-Vierge et à chaque fois on me donne cet argument-là. Quand on peut me
contrer. Les gens disent ça, la Vierge parle trop. Et c'est certainement pas le style de la sainteté. La Sainte Vierge est d'une discrétion extraordinaire, toujours été silencieuse. Et donc, c'est bizarre quand elle dit, par exemple, dans certaines apparitions du 19e siècle, des messages qui font 7 pages. C'est pour expliquer ce qui se passera dans le 20e siècle, reconnu par l'Église. Alors, certains pères disent, elle est un peu bavarde. C'est sûr, c'est la réaction humaine, ça, de dire ça. Et à Medjugorje, elle apparaît, tout le temps, elle fait des tonnes, et il faudrait à peu près 10 000 pages pour... Elle parle un peu beaucoup, hein. En Espagne aussi, elle a parlé pas mal. Alors, elle parle beaucoup. Bizarre. C'est bizarre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle parle beaucoup? Je n'ai pas été lui demander. Oui, mais ça, c'est sûr que... Elle répète toujours la même chose. Allô, pénitence. Et puis, elle demande à Bernadette de creuser dans l'herbe au bord du gave pour boire. Allez, creusez, buvez, purifiez-vous ici. Et elle montre à ce moment-là dans ses messages par ce mode de symbole, de signe, elle rappelle l'écriture. Vous voyez, par exemple pour Bernadette, il faut creuser. Il faut creuser à travers l'herbe. L'herbe, c'est la grâce, c'est la vie, c'est le premier degré de vie, le monde végétal. Donc, il faut creuser à travers la grâce pour trouver en nous l'humilité, la terre, et du fond de notre humilité, voir l'humidité de l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est Dieu. De manière que Dieu puisse passer de manière de plus en plus limpide. C'est aussi par la grâce, le fait de pénétrer dans l'humilité du Christ, la terre, notre terre promise. C'est le corps de Jésus et de creuser jusque dans son cœur pour que jaillisse du cœur de Jésus l'eau, le sang, l'Esprit Saint. C'est à chaque fois des messages pour nous faire comprendre Jésus, comment il faut toujours trouver Jésus à travers son cœur, à travers sa croix, à travers son humilité. C'est pas Jésus, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Jésus pardonne tout. Je peux faire ce que je veux et pas de problème. C'est la vérité. Jésus est la vérité. Et celui qui n'aime pas la vérité n'aime pas Jésus. Point final. Alors, c'est pour ça qu'elle est obligée dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui est complètement où l'humanité est, littéralement. Ça, c'est pas seulement le prêtre qui dit ça, vous voyez, c'est tous les nouveaux philosophes sont d'accord, hein, même non chrétiens, ça. Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, dans l'école de Clavet et tout ça, tous d'accord, on est plongé dans l'erreur. Littéralement plongé dans l'erreur. Au point de vue religieux aussi, vous voyez, catéchisme n'existe plus. C'est à cause de ça, c'est parce qu'on est imbibé d'erreurs. Complètement. Alors, la Sainte Vierge supplée, parle abondamment, répète, comme une maîtresse de classe, comme dit saint Thomas, quand vous êtes maîtresse de classe, il faut répéter. Et saint Thomas disait, bis repetita, catechesis. Répéter deux fois, ça plaît. Sainte Vierge répète, répète. Alors comme elle est coincée, bien sûr, par les puissances des ténèbres et leurs instruments, à chaque fois qu'elle s'adresse quelque part, on essaie de coincer, empêcher que son message se connaisse. L'empêcher absolument, par tous les moyens, etc. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Ah bah, du coup, elle va dans le village voisin, c'est tout. Dans ce village-là, ils connaissent, elle va dans le village voisin. Personne ne tient. C'est parce qu'on est dans un monde littéralement asservi par le Satan, vous voyez, comme le pape a bien voulu vouloir l'exprimer un jour, qu'elle est obligée d'aller dans chaque portion et dans chaque lieu.
Asservi par Satan qu'une autre époque, quand on regarde le nom de la rose, alors, quand on lit le nom de la rose, c'est complètement fou. Par
alors, le nom de la rose, le film Au nom de la rose. Au nom de la rose, c'est vrai. D'abord, je signale que l'histoire de mon roman de la rose, bien entendu, est une histoire inventée. Premièrement. Alors, oui, alors c'est ce que tout le monde me dit, oui, mais ça a quand même dû certainement exister. Non, ça n'a pas existé. Pas simple. Ça n'a pas existé. Complètement farfelu, complètement idiot. Complètement idiot. Il y a vraiment complètement idiot, complètement idiot, complètement idiot.
Enfin, moi, c'est il y a certainement eu des hérésies, il y en a eu dans les siècles passés. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi notre époque serait plus marquée par Satan que les époques précédentes, Satan où les papes avaient des femmes.
Du temps du Borgia, l'Église n'a pas toujours été en bonne santé, l'Église a toujours été contrée, etc. Très bien. Alors, aujourd'hui, pas plus qu'avant, au fond, ce que vous dites, c'est très alarmiste, mais enfin, ça a toujours été alarmant. C'est ça, hein? Alors, je vais donner la réponse de Marthe Robin. Comment disait Marthe Robin à ça, là? Marthe Robin disait ceci, que j'aime beaucoup. J'espère que vous connaissez déjà cette petite parole de Marthe. La parole de Marthe, c'était ceci. C'est-à-dire, voyez, l'Église, c'est le corps mystique de Jésus. J'aime beaucoup ça. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Et Jésus, c'est sûr que c'est Dieu, c'est le Verbe incarné, c'est le roi de l'univers, c'est le Rédempteur, c'est tout ce que vous voulez, c'est la... Mais c'est aussi le prophète. Le prophète. Et comme Jésus, c'est le prophète, la vie qu'il a menée sur la terre dans les 33 ou 36 ans, selon qu'on prend l'âge liturgique ou l'âge réel, marque les étapes prophétiquement de son corps mystique dans l'histoire. Le corps mystique, c'est l'Église. Il est né, l'Église est née à la Pentecôte, du moins l'Église est née, autant pour moi, a été conçue au moment de la croix. Voici ton fils. L'Église a été conçue à ce moment-là, et l'Église est née à la Pentecôte. Et l'Église, tout de suite, a connu la persécution, comme Jésus, dans les trois premières années de sa vie, avec les massacres des saints innocents, la fuite en Égypte, de même les trois premiers siècles de l'Église, connaît des persécutions affreuses. Puis après, jusqu'à l'âge de 12 ans, conformément à la Torah, eh bien, il fallait faire l'apprentissage de la Torah, des psaumes, des prophètes. Alors Jésus expliquait ça à l'Immaculée. Il était dans la vision béatifique, Jésus. Ça doit être génial. Alors, de même, le temps de l'Église, pendant jusqu'au 10 siècles à peu près, vous voyez, enfin, je ne sais pas combien de siècles, il y a eu le temps des pères de l'Église, etc. Vous voyez, donc toutes les étapes de la vie de Jésus, et Marthe disait, nous sommes en train, nous allons rentrer dans le temps du sépulcre. C'est-à-dire le temps, analogiquement, où le corps mystique de Jésus, l'Église, va rentrer dans la destruction la plus apparente et la défaite la plus visible qui soit. La séparation de l'âme et du corps. Et la mort, bien sûr. Vous voyez ? Donc elle disait ça. Donc pour elle, il n'y avait aucun doute que jamais l'Église n'a été attaquée de manière si définitive, si forte. Deuxièmement, le pape. Lorsqu'il est venu à Paris, Jean-Paul II, il a voulu absolument, il a tenu à réunir tous les évêques en secret. Et on a su 2 ans après ce qu'il leur avait dit. Il leur avait dit, l'Église est face à la méga tentation. Ça, évidemment, ça vous dit dit rien du tout parce que vous ne comprenez pas le langage phénoménologique. Alors, la méga tentation, ça veut dire c'est la tentation de la faim. La première tentation, c'est celle d'Adam. La tentation qui touche l'universalité du monde, de l'histoire et de l'humanité. Et la méga tentation, c'est celle de la faim, c'est celle eschatologique de la faim, dit l'Église, et face submergée à la méga tentation. Puis il a développé ça. Pour le pape, il n'y a aucun doute possible, on est dans le dernier combat. D'ailleurs, le pape a dit, je ne sais plus qui, je m'excuse, je devrais avoir plus de mémoire. Enfin, c'est quelqu'un qui nous l'a rapporté directement à Montmorin, chez nous, chez les amis. Il a dit, la Vierge m'a donné à l'Église, m'a donné au monde, pour que je conduise l'Église au martyre. Il a ces paroles comme ça, et c'est pour ça qu'il nous convoque ici à Saint-Jacques, qui est le premier apôtre martyr. Et au fond, c'est Jean, à la fois l'amour de Marie, Pierre, parce que c'est le pape, Paul, parce qu'il porte partout le glaive de la parole de Dieu, dans toutes les nations, et Jacques, parce que ce sera le pape martyr, ainsi que vous le savez bien, toutes les prophéties. Oui ?
J'ai une question à propos de ce film-là, Au nom de la rose. Parce que ce qui m'avait étonné là-dedans, c'est...
Au nom de la rose, oui.
Ouais, c'est l'inquisition qu'on a vue. C'est-à-dire l'envoyé du pape qui
brûlait... Le pape a envoyé un inquisiteur.
Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est ça qui m'avait étonné. Si tu peux nous expliquer ça. En même temps, une question sur le péché. Comment, jusqu'à quel point, on peut dire qu'une personne a péché? Par exemple, si un homme tue une autre personne, jusqu'à quel point?
Définition du péché, et puis deuxièmement, l'inquisition. Alors, d'abord, le péché, c'est plus facile. Alors, on va... Définition du péché. Péché. Donc, il y a une faute. Vous voyez? Le mensonge, le fait de faire tourner les tables, le fait d'invoquer les esprits des morts, le fait de jurer le nom du Seigneur en vain, le fait de ne pas... d'omettre, j'allais dire, la sanctification du jour du Seigneur, le fait de blesser sa mère par des paroles dures, le fait de vous voyez, donc tous les commandements, hein. Et les commandements de l'Église aussi, le fait de ne pas respecter le jeûne prescrit par l'Église, le fait de ne pas communier au moins une fois par an, le fait de ne pas se confesser, tout ça, ce sont des fautes. Bon, deuxième condition. Deuxième condition, il faut savoir que c'est une faute. Pour montrer. Et la foi va me délivrer. Donc la troisième condition, c'est que je commets une faute. Je sais que ça blesse littéralement ma relation avec d'amour, avec Dieu, avec Jésus, avec la grâce. Je sais que c'est une faute. Mais je veux quand même, et je décide quand même, et je choisis quand même de le faire, librement. Donc, les trois conditions sont celles-ci. Je peux très bien donc tuer quelqu'un. Donc, tu disais le crime, hein. Donc, je peux très bien tuer quelqu'un dans un moment de colère épouvantable, instinctif, sans réaliser ce que j'ai fait. Il n'y a pas de péché. Il y a une faute. C'est incroyable, hein. Enfin, dans l'ensemble, on sait quand même qu'on fait mal, hein. Et dans l'ensemble, avant de tuer quelqu'un, du moins la première fois que tu le fais, il faut que tu te fasses drôlement violence, donc il faut que tu le choisisses. En général, dans chaque domaine de cette dimension de l'homme, les péchés qui y correspondent, donc, prenez par exemple les premiers péchés dans l'ordre de la pureté, la première fois, c'est sûr, il faut se faire violence. Après, on peut prendre l'habitude. La première fois, il faut vraiment se faire violence. Première fois qu'on vole, il faut se faire violence. On sait que c'est pas bien. La conscience travaille terrible. C'est moi en Espagne, la Vierge l'avait dit, on lui avait posé la question, qu'est-ce que c'est pénitence? Pénitence, pénitence, comment est-ce que c'est la pénitence? Elle avait répondu, la pénitence, c'est d'obéir à la voix de sa conscience. C'est très beau, ça. Très, très beau. D'obéir à la voix de sa conscience. La conscience vraiment parle. Lorsqu'elle n'est pas abîmée par l'habitude de la faute,
Donc lorsque vous faites pour la première fois une faute, la première fois un crime, la première fois un vol, la première fois un mensonge, ça vous bouleverse littéralement. C'est pour ça que dans les guérisons intérieures que vous avez à demander souvent, il faut absolument essayer de vous rappeler, bon, par la grâce du Seigneur, mais par votre aussi propre mémoire, quelle est la première fois que vous avez menti? Quelle est la première fois que vous aviez volé? Quelle est la première fois que vous aviez joué au docteur avec vos copains? Eh oui, c'est ça, très important. Alors à ce moment-là, il y a tout un petit travail de pénitence à faire pour retrouver justement une nouvelle manière de s'engager face à une situation semblable. Bon, alors donc deuxièmement l'Inquisition. Tu me poses la question de l'Inquisition. Est-ce que l'Inquisition a existé? Évidemment, l'Inquisition a existé. Alors qu'est-ce que c'est que l'Inquisition? Eh bien, puisqu'on va vers Burgos, c'est le moment d'en parler, parce que Saint-Dominique, hein, pas loin. Saint-Dominique était quand même espagnol, faut pas l'oublier. Il a travaillé en France, mais enfin, il était espagnol. C'est sur la France qu'il a... Mais à l'époque, en France, c'était les cathares. Les cathares, c'était affreux, je veux dire. La situation en France, c'était affreux, parce que le clergé catholique était vraiment un peu pourri, ça c'est sûr. Complètement même. Et le peuple en avait vraiment marre, quoi. Et il n'y croyait plus. Il ne voulait plus écouter ces espèces de peau pourrie qui traînaient dans les carrosses, les chevaux, etc. Qui étaient faits prêtre ou évêque uniquement parce que c'était le second fils et parce qu'il y avait du bénéfice et tout. Ils avaient peut-être le pouvoir sacramentel, mais ils n'étaient pas aimés. C'était écœurant. C'est bien quand ils ont vu les cathares arriver, qui étaient des gens qui voulaient vivre absolument une très grande ascèse, une très grande purification catharsis, purification, une très grande pénitence, pour pratiquer une spiritualité où le corps est complètement écrasé, de manière qu'il n'y ait plus que l'âme qui vive, ce qui est contraire bien sûr au christianisme, bien sûr, mais enfin, c'était leur opinion, c'était leur manière de faire, il fallait écraser le corps, complètement, de manière qu'il n'y a plus que l'âme qui vit. Là, évidemment, c'était des types impressionnants, comme les gourous de l'Inde. Très impressionnants. Et alors les gens, du coup, allaient vers eux par sympathie. Ils étaient miséreux, très, tu vois. Donc Saint-Dominique traverse de l'Espagne, passe par ici, et voit tous ces gens. Lui, il est en habit de prêtre. Et il voit tous ces gens, ces vibrations extraordinaires de haine qui tombent sur lui, parce qu'on voit bien que c'est un catholique, un prêtre catholique. Il ne comprend pas comment ça se fait. Alors il décide de parler un jour avec un type qui le regarde en le fusillant des yeux, dans un bar, à Sisteron. Il parle toute la nuit, et il arrive à convaincre le bonhomme qui n'avait pas saisi. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait convertir des cathares. Alors, à partir du moment-là, il a été en Suède, il est revenu, il était à Rome, et à Rome, il a parlé au pape de cette histoire de cathares qui avait pris toute la Provence, tout le sud-ouest, et le Provence jusqu'à Sisteron. C'est fou. Et le pape lui a dit, je vous charge d'expliquer à tous les cathares où est la vérité. Où est la vérité? Où est la vérité? Où est la vérité? Alors il passe dans les villages cathares. C'est comme ça qu'est née l'Inquisition. Et il faisait comme à l'époque, comme on fait un petit peu en Afrique, peut-être à l'île Maurice, je ne sais pas, mais en Afrique j'ai vécu comme ça, des choses de ce genre, personnellement. Je peux te dire que c'est vrai. Il allait dans le village, on réunit en palabre tout le village, on fait venir un type qui est ni d'un côté ni de l'autre, ni cathare ni pchat. Saint-Dominique choisissait toujours bien sûr quelqu'un qui était plutôt sympathisant cathare, enfin pas engagé à fond. Et on faisait une discussion un procès, si tu veux, une espèce de palabre, où tout le monde devait constater qui avait la vérité. Si c'était le Christ et l'Église, ou si c'était les cathares. Et alors, on discutait, et après tout le village disait, ah ben en effet, c'est lui qui a raison. Alors, bien sûr, à ce moment-là, il y avait souvent des miracles. C'est qu'à cause de ça que Saint-Dominique a ressuscité pour plusieurs, je crois, une dizaine de fois des morts, pour prouver que la vérité était du côté du Christ. Ou souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'on allumait un feu, et alors il prenait le livre cathare, il donnait sa Bible au prêtre cathare, et puis il disait, on jette dans le feu, on verra ce que Dieu dit. Ça, c'était des choses qui se passaient in extremis, quand il voyait qu'il y avait vraiment mauvaise volonté. Alors le feu, bien sûr, du cathare brûlait immédiatement, et la Bible que le prêtre jetait bien dans le centre, dérapait sur le feu et allait se poser sur la pierre. Et on va vénérer encore les pierres. Alors du coup, le prêtre cathare faisait le tour du feu, allait récupérer le truc, le jetait dedans et sur la pierre. Et du coup, il se précipitait, le rejetait dans le feu, l'incipait. Du coup, le prêtre s'est foutu dans le feu lui-même. C'est arrivé une fois, ça. C'est ça l'inquisition, c'est-à-dire on fait un procès pour voir où est la vérité. Et c'est comme ça qu'est née l'inquisition, parce que il faut pas oublier. Alors après, donc c'était beau l'inquisition au départ, la recherche de la vérité. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la justice n'existait pas. Les hôpitaux n'existaient pas avant le christianisme. Hein. Les hôpitaux, la justice, l'école n'existaient pas. C'est le christianisme et c'est l'Église qui a inventé et la justice, et l'école, et les hôpitaux. Et aujourd'hui, les mouroirs. Vous voyez ? C'est l'Église qui a fait ça. Et c'est à l'inquisition qu'on doit la justice. Par exemple, vous voyez, quelqu'un était soupçonné seulement par deux ou trois dans le village de faire de la magie ou de la sorcellerie, à cause de quoi les troupeaux crevaient et tout, et la pluie ne venait pas. On disait, ouais, c'est lui qui fait de la sorcellerie, etc. Mais si vous faisiez deux ou trois, tout le village se précipitait, hop, et on le lynchait, et ça se passait comme ça. Et si ça ne se passait pas comme ça, on allait voir le Seigneur, et le Seigneur disait, bon, les potatras, oui, allez, hop, on écartait, et puis c'est bon. La justice n'existait pas. Surtout dans ces matières délicates de sorcellerie, de magie, tu vois, de sorts, etc., qui étaient lancés, comme on les voit réapparaître maintenant aujourd'hui, ça réapparaît en pullulant, puisque à la Sécurité sociale de France, sur la rubrique sorcellerie, et il y a plus en France, 20 000 je crois, que de prêtres. Et ils sont déclarés à la Sécurité sociale. Ils sont pas cons, hein. Alors, c'est fou en ce moment, ça. Donc à cette époque-là, c'était très fort. Alors, les cathares, eux, justement, voulaient absolument ne plus vivre du corps, ne plus vivre avec leur corps. C'est pour ça qu'il fallait pas avoir d'enfants, c'est pour ça qu'il fallait pas se marier, c'est pour ça qu'il fallait pas faire plein de trucs. Mais aller vivre parfaitement, parfaitement, être parfaitement pur, uniquement au point de vue spirituel, sans la grâce, c'est impossible. Alors, comment tu vas réussir à le faire? En faisant appel aux puissances intermédiaires, tout simplement. Et en pratiquant une spiritualité qui va consister dans la décorporation, le fait que ton âme se dégage de ton corps. Et la décorporation, le voyage astral, est impossible sans l'aide des puissances intermédiaires, traduisez les démons. Donc ils ont été obligés au bout d'un certain temps de recourir à la magie noire et blanche, et à la mancie. Tu vois ça? Donc ça devenait très 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 gênant, parce que les cathares, en faisant ça, obligeait tout le village à devenir cathare par leur pratique, et on était plus libre. Donc, en plus, toute la France du sud, ouest notamment, était j'allais dire, complètement prise par le catharisme. Et le comte de Toulouse, qui avait décidé de faire sécession, de réclamer l'indépendance pour pouvoir s'allier à l'Angleterre, et faire que toute la portion moitié de la France de ce côté-là devienne l'Angleterre, avait décidé d'utiliser le Qatar pour justement se séparer du roi de France et se faire que toute cette portion se devienne anglaise. Alors c'est là que le roi a envoyé Simon de Montfort. Alors c'est là Simon de Montfort, le chevalier, pour empêcher ça. Et c'est comme ça que quand vous allez à Rome, vous voyez la fameuse bataille, la première bataille que Simon de Montfort a donnée à la première ville Qatar, qui était une ville où il y avait, je crois, 20 000 soldats. Simon de Montfort avait 100 ou 200 chevaliers, c'est tout. Et ils ont eu la victoire. C'était un petit peu du style Jeanne d'Arc à Orléans. Ils ont eu une victoire spectaculaire. Et Dominique, on voit Dominique qui est à genoux comme Moïse, les bras comme ça en croix. La victoire est obtenue à Simon de Montfort. Seulement Simon de Montfort est devenu très vite extrêmement cruel. Pas au début, mais très très vite, il est devenu cruel. Alors Dominique leur a dit, et c'est là que je vous raconte le début et la naissance de l'Inquisition, Dominique a dit à Simon de Montfort, tu ne passes pas dans un village sans que j'y sois passé au moins pendant un mois avant. Et il allait, et c'est là qu'il essayait d'expliquer. Et c'est comme ça que ceux qui voulaient se dégager, se dégageaient, ils étaient libres de se dégager, mais ceux qui étaient véritablement décidés à continuer leur pratique magique de sorcellerie pour fossiliser la liberté des autres, bon, ben cela, très bien. Quand Simon de Montfort arrivait, ben, il y avait eu ce fameux discernement pour que Simon de Montfort ne tue pas tout le village et que lui, il avait réussi au moins à sauver ceux qui étaient douteux. Et Simon de Montfort décapitait, bien sûr, que ceux où Saint-Dominique ne pouvait absolument pas dire le contraire, voyez. Donc l'Inquisition, c'est un organe de justice pour sauver. Parce que la plupart du temps, on condamnait littéralement, sans jugement, les gens. Et ça se faisait, il a organisé assez vite, de manière à ce qu'il y ait plusieurs des gens du village qui soient les jurés. Tu vois, par exemple, les jugements aujourd'hui, où tu as des jurés qui sont indépendants, qui ne connaissent pas, qui sont neutres, qui sont... Et tout un procès, et qu'on ne condamne jamais personne sans qu'il y ait la preuve de l'accusation, tandis qu'avant, on condamnait uniquement par l'accusation, tandis que maintenant, ils vont faire la preuve. Et bien ça vient de l'Inquisition. Et la justice, c'est ça, hein? La justice, c'est ça. En Occident, et maintenant dans le monde entier, il y a la justice. Et ça vient de l'Inquisition. Et l'Inquisition, c'est ça, c'est juste, on envoie quelqu'un pour que ce soit clair, pour qu'au moins les fausses accusations ne viennent pas tomber sur quelqu'un. Tu vois ça? Je voudrais prendre des exemples précis, je reconnais, hein. Mais Jeanne d'Arc, par exemple, a été condamnée par un procès de l'Inquisition. Mais c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu l'Inquisition, bah, on l'aurait brûlé dans la journée. Parce que là, il a fallu un an et demi de trucs invraisemblables et des papiers de procès comme ça, comme ça, comme ça. C'est haut comme ça. Et il a fallu changer les jurés. Il a fallu changer les jurés plusieurs fois. Parce que les jurés disaient non. Alors du coup, paf, on les vidait, on en prenait un autre. Jusqu'à ce qu'on ait que des jurés de mauvaise foi. Mais n'empêche que le système de l'Inquisition est quand même un système pour sauver les innocents. Et pas du tout pour condamner des coupables. Et pour chercher la vérité. Ça va? Ceci dit, ravages de l'Inquisition, hein, les ravages de l'Inquisition, il faut faire attention, pas trop dire que l'Inquisition a brûlé les gens, ça c'est pas juste. Hein. Il faut que vous lisiez les thèses sur l'Inquisition qu'on fait maintenant, qui sont beaucoup moins idéologiques et qui regardent les documents. On s'aperçoit par exemple que dans la période Qatar, la pire en France, je crois qu'on a abouti seulement à 50 condamnations en tout. 50 condamnations et je crois dont 5 ou 7 ont été suivis des faits. Alors quand même, pour la période la pire de l'Inquisition, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Par contre, il y a eu des centaines de milliers qui ont été sauvés grâce à l'Inquisition. Bien souvent, pour éviter, pour donner l'exemple, justement, ne fais pas de sorcellerie, tu sais, il fallait que c'est comme ça qu'on impressionnait les gens, on leur donne un exemple. Quand quelqu'un avait fait de la sorcellerie, qui était mort en prison ou quelque chose comme ça, une fois qu'il était mort, on organisait un grand truc, on le mettait au poteau et on le brûlait, mais il était déjà mort. Alors ça, c'est arrivé très souvent. Ça. Voilà. Autre question ?